Alors, comme j'ai dit tantôt, tournez dans Romains et au chapitre 6, verset 16. L'impact de la résurrection. Si vous êtes un chrétien depuis un certain temps, vous êtes familier avec le récit miraculeux de la résurrection du Seigneur Jésus. Cette histoire-là apporte l'espoir pour le salut. Pas de résurrection, pas d'espérance et probablement pas de salut. Ça apporte aussi cette assurance pour l'éternité. Nous allons passer toute l'éternité avec Dieu en sa présence. Et aussi le confort en temps de chagrin, en temps d'épreuve, en temps de difficulté. On a besoin de s'appuyer sur la vérité, les vérités de la parole de Dieu, c'est-à-dire. Mais est-ce que la résurrection a changé ta façon de vivre? C'est la grande question ce matin. Dans ce message, j'aimerais expliquer l'impact que la résurrection du Christ peut avoir sur nos pensées, nos conversations et notre conduite, parce qu'elle doit avoir cet impact-là. Elle doit changer notre façon de penser, elle doit changer notre façon de parler, elle doit changer la façon dont on se comporte, dont on se conduit. On ne peut pas agir comme avant. Son pouvoir sur la tombe, c'est-à-dire sur la mort, peut transformer tous les aspects de notre vie. Et nous allons apprendre en même temps, on va apprendre davantage sur les bénédictions, parce qu'il y en a des bénédictions qui accompagnent notre salut. Paul dit dans Romains 6, verset 16, « Ne saviez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir? » Je vais arrêter là, pour juste faire des petits points d'ordre. Paul dit, sais-tu pas, mon frère, ma sœur, que si tu continues à être dans le péché, tu es un esclave. Tu obéis à Satan. Il dit, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Et la question est claire, à qui j'obéis? Soit du péché, esclave, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Une grande décision, il y a un choix. On est toujours devant un choix. Je pêche ou je pêche pas. Ce matin, vous avez dans votre feuillet, alors ceux qui n'ont pas de feuillet, peut-être demandez à Richard. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu, qui est arrivé, qui n'a pas eu son feuillet? Vous avez les écritures complémentaires qu'on va voir tout au long du message. J'ai cru bon de créer ce pamphlet-là pour vous donner une source ou un rappel, c'est-à-dire parce que des fois, la mémoire ne peut pas tout capter. Donc, vous avez les versets qu'on va voir ensemble. Donc, si tu es un chrétien, et je répète, peu importe depuis combien de temps, tu dois être familier avec l'histoire de la passion et de la résurrection de Jésus. C'est notre réconfort. Quand on est près de la tombe de quelqu'un qu'on aime, qui est décédé, un frère, une sœur, C'est sûr que c'est triste quand c'est quelqu'un qui ne connaissait pas le Seigneur, parce que sans juger, on ne peut pas affirmer. Et c'est aussi le réconfort d'une vérité sur laquelle on compte dessus pour notre propre salut. Je vous l'ai dit tantôt, pas de résurrection, pas d'espérance. Mais ça a-tu changé ta façon de vivre? La résurrection que le Seigneur nous demande de crier, de dire au monde que Jésus est mort pour nos péchés, puis il est ressuscité, il n'est pas resté dans la tombe. Est-ce que ça l'a fait une différence dans ta façon de vivre? Quel impact la résurrection du Christ a eu sur tes pensées, tes conversations et ta conduite? Vous savez, la résurrection, c'est une vérité qui non seulement change ta destinée éternelle, mais elle doit aussi t'influencer sur la façon dont tu adores Dieu. C'est plus le petit Jésus dans la crèche, là. C'est plus le bon Dieu dans le sens bonasse. C'est le Dieu tout-puissant, celui qui a le pouvoir sur la mort. Ça doit avoir un impact sur la façon dont tu te rattaches à lui. Est-ce que tu t'identifies comme un chrétien né de nouveau qui appartient au Seigneur, qui lui appartient? Ça doit avoir un impact sur la façon dont tu pries et aussi sur la façon dont tu te rattaches aux autres. C'est quoi ma relation avec les autres? Donc, la première étape dans l'évaluation de l'impact de la résurrection du Christ, c'est de revoir certaines vérités qui sont fondamentales, qui sont dans la Bible et en lesquelles nous croyons. Et avant d'aller plus loin, je vais juste prier. Seigneur, c'est un message important que celui de proclamer ta résurrection. Ton Père, Dieu le Père, t'a sorti de la tombe, t'a fait revenir à la vie. Et Père, cette résurrection doit avoir un impact dans nos vies, doit changer nos vies. On doit être différent des autres, du monde. Parle-nous ce matin. Parle-nous. Tes serviteurs t'écoutent. Amen. Donc, cette première étape-là, qui nous amène à certaines vérités de la parole de Dieu, sont celles-ci. Premièrement, Jésus-Christ est vivant et Jésus-Christ est assis à la droite du Père. On voit le passage dans Hébreux 10, 12 qui dit ceci. Mais lui, ayant offert un sacrifice pour les péchés pour tous les temps, s'assit à la droite de Dieu. Hébreux 10, verset 12. Nous croyons que la mort sacrificielle de Jésus, elle était suffisante. Essayez pas de rajouter d'autres choses, là. La mort de Jésus était suffisante pour payer le salaire de tous nos péchés. Ça prenait le sacrifice parfait d'un agneau parfait de Jésus qui était sans péché. Et sa résurrection, son ascension en sont la preuve. Jésus est ressuscité des morts et Jésus maintenant est assis à la droite du Père parce qu'il a été élevé. Deuxièmement, il faut croire ceci, c'est que nous sommes pardonnés et éternellement sauvés dans le Christ. Éphésiens 1, versets 13 et 14. Paul dit, « En lui, vous aussi, après avoir écouté le message de vérité, l'Évangile, c'est la Bible, l'Évangile de votre salut, ayant également cru, vous avez été scellés en lui par le Saint-Esprit. » Scellé, là, ça veut dire que tu peux pas briser le sceau. Et on a été scellés par le Saint-Esprit de promesse qui est donnée comme gage de notre héritage en vue de la rédemption, de la possession de Dieu à la louange de sa gloire. Éphésiens 1, 13, 14. Parce que Jésus est mort pour nos péchés et qu'il s'est levé de la tombe, qu'il est ressuscité, eh bien, nous, les croyants en Dieu, pouvons savoir dès maintenant, et je sais que ça frustre beaucoup de gens de notre ancienne religion lorsqu'on leur dit « Moi, je m'en vais au ciel. » Comment est-ce que tu peux savoir ça? Tu es donc bien prétentieux de dire ça. Non, parce que je le sais à cause que la parole de Dieu me le dit. Je sais dès maintenant que je suis éternellement sauvé. J'ai plus à craindre. Je m'en vais au ciel, je m'en vais en enfer, je m'en vais au ciel, je m'en vais en enfer, je m'en vais au purgatoire. Non. Tous ceux qui sont sauvés par grâce, tous ceux qui ont la foi et qui obéissent au Seigneur sont sauvés. Et ce salut-là, là, il n'est pas basé sur mes propres performances. Que je fasse quoi que ce soit, que je serve à l'école du dimanche, que je serve à nettoyer le plancher, que je serve à quoi que ce soit, ce n'est pas à cause de ça que je suis sauvé. L'Esprit Saint qui vit en chaque croyant est la garantie d'un héritage céleste. Ensuite, nous allons vivre éternellement. Jean 3, 16. Notre frère Luc, tantôt, a mentionné le verset, l'a lu un peu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On va vivre éternellement. C'est-à-dire que la mort, ici, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. C'est juste un passage. Après ça, la vraie vie commence. Vous savez, la promesse du Christ de la vie éternelle est une vérité qui nous incite à vivre avec justice maintenant, pas attendre, là. Et aussi, ça nous donne l'espérance pour l'éternité. Hein? Je pensais à ça hier, puis je vous l'ai dit au début. Quand je suis arrivé ici, j'avais une grand-mère. J'avais une grand-mère qui est décédée maintenant, qui s'appelait Espérance Parisien. Quel beau nom. Espérance. Puis quand mon grand-papa paternel allait au village, à Alfred, pour aller soit faire une commission, puis si on arrivait, puis grand-papa n'était pas là, on lui disait, « Grand-maman, où est grand-papa? » Ah, oh, elle dit, « Je l'espère dans quelques... » Mais c'était un terme qu'on utilisait dans ce temps-là. Je l'espère. Il s'en vient. Et on espère dans ce sens-là, c'est que ça s'en vient. C'est une promesse du Seigneur Jésus. On va être aussi ressuscité physiquement. Ceux qui sont morts en Christ, si on n'est pas vivant, lorsque le Seigneur va venir pour l'enlèvement, on va ressusciter. Regardez 1 Corinthiens 15, 42. Il est semé un corps périssable. C'est comme ça qu'on a été fait. Il est soulevé un corps impérissable. On est né avec un corps périssable et à la résurrection, on va avoir un corps impérissable. C'est merveilleux, hein? On va vivre la même expérience. Tous les péchés, les faiblesses de nos corps, de notre corps actuel, vont être une chose du passé quand Jésus va revenir pour nous enlever. Ça, c'est extraordinaire. Plus de péché, imaginez-vous. Plus de combat dans nos vies. Ensuite, le ciel, c'est notre maison. Moi, je reste au 543 boulevard Cécile. C'est pas ma maison pour le vrai. Mais c'est pas ma maison quand même. Ma maison est au ciel. Jésus l'a promis, hein? Jean 14, verset 3. « Si je vais préparer une place pour vous, je vais revenir, je reviendrai et je vous recevrai à moi-même, que là où je suis, là vous pouvez être aussi. » Et en raison de la grâce de Dieu qui nous a été fournie gratuitement par son Fils, on va être un jour parfait. Hein, je vais aller voir Marc, m'a dit « Bonjour Marc parfait. » Hein, bonjour, Joanne parfaite. On va être parfait. Et on va entrer dans ce lieu céleste-là que le Seigneur a préparé pour nous pour ne plus être jamais, jamais séparés de notre grand Dieu. C'est merveilleux. Jésus est venu sur la terre pour que nous puissions avoir une vie abondante. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient et qu'elles soient dans l'abondance. Ça va être notre expérience, frères et sœurs, pour l'éternité. On va être dans l'abondance. Faut juste ça, savoir ça, que ce qu'on vit présentement, c'est temporaire. Ah oui, j'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes, j'ai mal ici, j'ai mal là, ça ne va pas bien financièrement. Il y a toutes sortes de troubles qui m'arrivent. Oui, c'est vrai, ça fait partie de la vie. Il y a peut-être des conséquences là-dedans qui sont de ta faute aussi. Mais un jour, ça va être la vie parfaite au ciel pour l'éternité. On va voir nos proches. En ce moment, on est absent du Seigneur, mais on a cette espérance-là. Regardez dans 2 Corinthiens 5, verset 8. Nous sommes de bon courage, je dis, et préférons être absent du corps et être à la maison avec le Seigneur. Bien, si on va être à la maison avec le Seigneur, ça veut dire que quand on va y aller, les autres qui sont partis avant nous vont être là aussi. Nos êtres chers qui ont été sauvés sont dans la présence du Seigneur en ce moment. Et quand nous arriverons au ciel, on va être réunis avec notre Seigneur et avec ceux qu'on aime. On a toutes ces promesses-là qui sont dans la parole de Dieu. Et ça, c'est le résultat de tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous. C'est l'impact de la résurrection. Maintenant, ça nous est pas donné simplement pour qu'on puisse les reconnaître comme vrais. C'est vrai, c'est écrit dans la Bible. Mais elles doivent nous influencer sur la façon dont on vit à chaque jour. C'est là la différence. Je peux croire tout ce qui est écrit là-dedans, mais si ma vie n'a pas changé, Léon Deschamps disait, les unions, qu'est-ce que ça donne? Mais connaître la Bible par cœur, qu'est-ce que ça donne si tu ne la mets pas en pratique dans ta vie? La résurrection du Seigneur Jésus a-t-elle vraiment fait une différence dans ta vie? Il faut. On est en pleine sainteté. On est saint. Pas obligé d'avoir la petite auréole, là. On est saint. 1 Pierre 1,15 qui dit ceci, « Mais comme le saint qui vous a appelé, soyez saints, vous aussi, dans tout votre comportement. » Ce n'est pas une question de perfection, il n'y a personne de parfait. Parce que si vous attendez la perfection, ça n'arrivera pas. Des Miss ou des Mr. Perfect, il n'y en a pas. Jusqu'à temps qu'on atteigne le ciel, par exemple. Et là, on va être parfait. Une vie sainte, c'est un engagement, une décision qu'on prend envers Jésus-Christ, à l'obéissance, dans tous les aspects de la vie, aux vérités de sa parole. Je veux, Seigneur, obéir à ta parole. Il y a des choses, j'ai de la misère avec. Ça, le Seigneur le sait. Mais je veux. Bien que il y a bien du monde qui se moque de ça, la sainteté. Ça devrait être le désir. Malgré cela, ça devrait être le désir de notre cœur. Ça devrait être le but aussi. Plus on avance dans le Seigneur, notre but dans notre vie d'être saint. Soyez saint, Pierre dit. Maintenant, c'est quoi le message qu'on transporte, que l'on dit en tant que croyant? Après avoir fait confiance à Jésus en tant que sauveur, après qu'on a placé notre avenir éternel entre ses mains, on a tout fait ça. Est-ce qu'on partage notre témoignage de ce que lui a accompli dans notre vie avec les autres, avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur? Pourquoi? Pour qu'ils puissent être sauvés eux aussi. Si tu es ici aujourd'hui, puis si tu es un enfant de Dieu, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui t'a parlé du Seigneur. Est-ce qu'on est un phare pour les gens avec qui on travaille, les gens avec qui on vit? Ton conjoint, est-ce qu'il voit l'amour de Dieu en toi, conjoint, ta conjointe? On est un phare pour les gens, pour notre conduite, notre conversation. Et tout cela doit montrer que nous sommes différents. Différents du reste du monde, parce que la vie du Christ, elle transpire où elle est transposée ou exposée à travers nous. On doit se protéger contre la consommation de nos propres préoccupations. Et ça, souvent, ça prend le dessus. Nos propres préoccupations. Et au lieu de cela, on devrait faire un effort pour dire aux autres la paix, la sécurité qu'on a trouvée en Jésus-Christ en tant que Sauveur et Seigneur de nos vies. Pensons-y un instant. La vérité que nous offrons, c'est-à-dire les messages de l'Évangile, pourrait changer le destin éternel de quelqu'un. Maintenant, revirons la phrase en envers, c'est-à-dire la vérité que nous cachons, que nous ne partageons pas, pourrait changer le destin éternel de quelqu'un. Sérieux, hein? Est-ce qu'on sert le Seigneur avec la puissance de cet esprit ou bien si on veut y aller par nos propres forces? Est-ce qu'on veut présenter l'Évangile par nos propres forces ou avec la puissance du Saint-Esprit? Lorsqu'on a été sauvé, l'Esprit-Saint est venu habiter en nous et il nous rend capables de servir le Seigneur avec sa force. Et notre confiance ne doit pas être dans nos propres capacités, mais dans la souffrance, dans la suffisance, excusez-moi, de l'Esprit qui vit en nous. Il est celui qui nous a amenés au salut en nous condamnant au péché. C'est l'Esprit-Saint qui t'a convaincu que tu étais un pécheur puis que tu t'en allais en enfer. C'est lui, Saint-Esprit, qui a fait ça. Il nous a révélé ensuite la vérité. Oh, tout d'un coup, il y a des passages qui font du sens. Il y a des passages qui me parlent. Il nous a donné la foi. Il est venu habiter en nous. Et il va continuer à faire son travail jusqu'au retour du Seigneur, jusqu'à la gloire de Dieu. L'Esprit-Saint nous permet désormais d'accomplir tout ce que Dieu nous appelle à faire, tout ce que Dieu nous appelle à faire. Et cela inclut de nous donner le courage de partager sa sainte parole, sans crainte. Partager cette bonne nouvelle-là de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus. Te rends-tu compte aussi que tu n'es jamais seul? Si tu es un enfant de Dieu, tu n'es jamais seul. Quand tu as fait confiance au Seigneur Jésus en tant que sauveur, tu as gagné un ami, pas comme celui de Jean Coutu, mais un vrai ami qui ne te quittera jamais, qui ne t'abandonnera pas. Jésus est venu vivre en toi par le Saint-Esprit et par conséquent, tu n'auras jamais à te sentir seul parce qu'il est toujours là. La nouvelle de la résurrection de Jésus, c'est un message que le monde a désespérément besoin d'entendre. Et on a reçu ce grand privilège-là de prier pour ces gens-là et de leur parler de cette espérance-là, l'espérance de la vie éternelle qui est disponible par Jésus-Christ. On a été doués de bénédictions. Ces bénédictions-là, y accompagnent notre salut. Et il est de notre responsabilité, frères et sœurs, de partager cette bonne nouvelle-là avec les autres. Et je termine en disant ceci. Combien de fois par jour penses-tu à la résurrection? Quel espoir la résurrection t'offre-t-elle au milieu de ta vie quotidienne? Y a-t-il une espérance que la résurrection t'a apportée? Comment la résurrection de Jésus a-t-elle influencé ta façon de vivre? J'appelle ça le petit coin de la réflexion. Ça va nous donner à chacun le pouvoir de réfléchir Le baptême, c'est une image de notre identification avec le Christ dans sa mort et sa résurrection. Et c'est ce que Paul dit dans Romains 6, versets 1 à 6. « Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? » Ce n'est pas parce qu'on est sauvé puis qu'on est sous la grâce qu'il faut faire par exprès. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Si tu as été baptisé, si tu as témoigné que le Seigneur Jésus t'a sauvé, qu'est-ce que tu fais encore les pieds dans le monde? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Il faut que ça paraisse dans ta vie. Sans ça, moi, j'ai vu des gens revenir en avant, demander pardon parce que il avait été baptisé. Il avait dit qu'il avait été sauvé, mais ils ne l'ont jamais été. Et ils ont demandé pardon à l'Assemblée pour leur demander encore une fois, là, j'ai compris, là, je veux être rebaptisé. La mort au péché, c'est-tu quelque chose d'évident pour toi? Dans tes conversations, dans ta conduite. Est-ce que ceux qui te connaissent bien disent que tu vis un nouveau genre de vie ou bien rien changé. Tu vis toujours comme avant. Seigneur, parle-nous. Convainc-nous. Change-nous. Que celui ou celle qui ne te connaît pas ce matin puisse venir à toi. Simplement, tel qu'il est, qu'il puisse reconnaître son état, qu'il puisse croire dans cette mort et cette résurrection, que tous ses péchés, passé, présent et avenir, sont pardonnés. Que maintenant, par ta force, il s'engage à marcher pour toi, à s'identifier à toi. En Jésus, on te prie. Amen.